Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous présente Caryl Ferré.
Donc, bonjour à tous.
C'est l'auteur qui commence à être un peu connu et notoire d'un certain nombre de romans noirs. Il a commencé, je vous la refais rapide, hein, parce qu'on va pas, je vais pas jouer les bibliophiles. Il a commencé par les aventures d'un détective privé, ancien policier irlandais, qui s'appelait McCash, qui avait la caractéristique d'être borgne et boiteux. Et on le trouve dans deux romans, Plutôt crevé et La jambe gauche de Joe Strummer, qui était un beau, très beau titre déjà, rien que pour Joe Strummer, mais bon.
D'accord.
Voilà. Et ensuite sont venus alors, des romans d'une inspiration tout à fait différente, où on commence à voir apparaître la patte, si on peut dire, ou la petite musique mondiale de Caryl Ferré avec ce qu'on appelle aujourd'hui la saga Maori, c'est-à-dire Aka et Hutu, qui ont été publiés à la série noire. Et puis a déboulé une espèce de bombe humaine, je ne sais pas comment la qualifier, Zulu, qui a eu le succès qu'on sait, aussi bien critique que public, couvert de prix, en cours d'adaptation au cinéma, d'après ce que, si je suis bien renseigné, enfin bon. La totale, et un roman qui, on est assez nombreux à le penser, qui nous a tous remués, secoués jusqu'au tréfonds. Et donc, en plus, alors je passe sur les pièces radiophoniques, l'écriture pour la scène et des choses comme ça que tu as commis et que tu continues de commettre. Voilà. Bon, aujourd'hui, on est ensemble pour le nouvel objet littéraire et romanesque de Caryl, qui est Mapuche. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas lu, je pense que peut-être peu de gens l'ont lu encore, ou certains l'auront lu, et on verra ensemble. On est en Argentine de nos jours. Je vous la fais de mémoire, malgré mes notes. On a deux personnages assez singuliers, assez extraordinaires. Commençons par Hanna, qui est juste d'où le titre du bouquin, qui est une femme mapuche de ce peuple indien qui a été quasi exterminé, et dont un des amis, ou du moins l'ami d'un ami, est assassiné. C'est un travesti qui fait le tapin dans des quartiers un petit peu, comment on va dire, marginaux de Buenos Aires, et qui est assassiné d'horribles façons, dont on retrouve le corps dans un bassin, et qui et donc Hanna, par l'intermédiaire de son ami, va essayer d'enquêter pour savoir exactement qui a tué cet homme-là, étant entendu qu'en plus, dès le début, dès les premières constatations de police, elle s'aperçoit que les flics n'ont strictement rien à faire de ce mort-là, de cette victime-là, comment un travesti, un de plus, un de moins, ça les bouleverse pas beaucoup. Du coup, elle va se retrouver peu à peu, je marche à grands pas, hein, pour vous faire le pitch, comme on dit, du bouquin, on marche à grands pas, je vous le fais à grands pas, et elle va finir par rencontrer l'autre Paul du livre, l'autre personnage central, qui est Ruben Calderon, qui lui... est un peu comme Hanna, elle est la rescapée d'un peuple martyr. Lui, il est le rescapé de la période de la dictature militaire en Argentine, qui a sévi dans les années 70 jusqu'à l'arrivée de Carlos Menem à l'époque. Je crois que c'est lui qui a succédé au
militaire. Alfonsine, n'est-ce pas ?
Ou Alfonsine, pardon. J'en ai sauté un. Et qui, lui, a vu disparaître dans les geôles, dans les centres de torture, dans la fameuse école de mécanique de la marine, qui était un centre d'interrogatoire et de torture clandestin, qui a vu donc disparaître corps et âme, c'est à peu près comme ça qu'on peut le dire, sa petite sœur et son père. Sa mère restant, ayant survécu à tout cela, ayant été, on va dire, épargnée, et faisant partie... cette mère, de ces femmes qui ont commencé à défier la dictature très tôt, avant même qu'elle tombe, en demandant des comptes sur le sort des disparus, puisque de cette école mécanique de la marine, on ne sortait que très très rarement vivant. Ruben est l'exception qui confirme la règle. et que soit les corps des gens qui étaient morts sous la torture étaient enterrés clandestinement, soit ceux qui avaient survécu aux sévices étaient balancés dans l'Atlantique par hélicoptère ou par avion. Ça dépendait de l'engin qui était disponible. Voilà en gros le départ. Donc on part sur une enquête, j'allais dire policière, banale. Banale, oui, parce qu'on a un meurtre, on a des gens qui cherchent à savoir la vérité. Et du coup, le roman va être une suite de révélations, essayant d'arracher toutes ces vieilles peaux, toute cette chape de silence qui recouvre les années de la dictature et surtout qui ont permis à tout un tas de tortionnaires de passer à travers mailles, hein, comme c'est souvent le cas dans ce genre de situation. Tortionnaires qui vont évidemment, anciens tortionnaires ou tortionnaires tout court, parce que je ne sais pas si on peut être ancien tortionnaire, en tout cas tortionnaires tout court, qui vont réapparaître au cours de l'intrigue pour évidemment contrer et Ruben et Hanna lors de leurs enquêtes. Voilà. Et alors, pour ce qui est de... En plus, Ruben, quand elle le contacte, d'abord, il commence par refuser, mais assez vite, il va s'intéresser à l'affaire de ce travesti assassiné. Il est lui-même sur une autre enquête qui le préoccupe beaucoup. C'est la disparition d'une jeune femme qui est photographe et qui est la fille d'un... on va dire ça, d'un homme d'affaires extrêmement important, très influent, très introduit dans les milieux du pouvoir. Et enquête qui, là encore, se heurte à la loi du silence, à des contre-vérités évidentes, à un silence gêné, enfin bref, tout un tas d'obstacles qui, bon, évidemment, quand on lit des polars, on est habitué à ça, mais quand derrière le contexte historique, le passé, l'histoire de l'Argentine pèse de tout son poids, on voit très très bien que très vite les silences et les obstacles mis en travers la route de ces enquêteurs ont tous un lien évidemment avec ce passé. À quoi il faut ajouter aussi que l'Argentine ayant un malheur n'arrivant jamais seule, après s'être, on va dire, sortie de la dictature, l'Argentine, comme on le sait, a connu en 2000 et 2001 une crise financière qui est d'ailleurs passant rappeler un petit peu ce qu'on connaît aujourd'hui, crise financière qu'on appelle tout au long du bouquin d'ailleurs et d'une façon générale la banqueroute, ou qui avait vu les banques argentines tout d'un coup fermer leurs portes, refuser de payer, et l'Argentine après décidant, là, je vous fais de lourdes caricatures, décidant de ne pas régler sa dette, de ne pas appliquer les recettes que le FMI lui imposait à l'époque, et qui a donc vécu dans... difficultés pendant 4, 5, 6 ans. Le peuple argentin a été absolument martyrisé par les conditions. Après avoir été martyrisé par la dictature, il a été martyrisé par les conditions sociales et économiques qu'on lui imposait. Bon, voilà. Donc, on a ici un contexte historique, une histoire qui pèse de tout son poids sur les épaules de, assez frêles d'ailleurs, de Hanna en particulier, et de Ruben. Voilà, pour vous le dire à grands traits. À ces deux-là viennent se heurter des méchants, parce qu'il en faut, sinon il n'y a pas de bon polar sans bon méchant. Certains sont d'anciens officiers, on y trouve un haut responsable du clergé, on y trouve des tortionnaires, des anciens soldats, des anciens policiers, un peu de tout. Et tous ces gens vont se regrouper, une sorte de commando là, qui va essayer de... non seulement d'empêcher Hanna et Ruben de trouver la vérité, mais qui vont carrément chercher à les éliminer, puisque l'une des lois non dites de l'Argentine de nos jours, à partir du moment où certains s'attachent de trop près à la vérité, à la découverte de la vérité, c'est carrément d'éliminer les témoins gênants ou les fouilles merdes, comme on dit, qui pourraient les embêter. Voilà. Voilà, j'espère que je ne trahis rien. Non. Sinon, tu rectifieras, hein, parce que j'essaye de pas non plus endormir le public avec mon résumé. Voilà. Bon, c'est un bouquin assez étonnant, où fait de fureur, de bruit, de violence. Il y a des scènes, la violence déboule dans l'intrigue de façon par moments complètement très très soudaine et très très brutale. Et c'est comme des... espèce d'éclairage hyper, hyper, hyper dur, qui durcissent les angles et les personnages. Et on a aussi des fantômes plein les pages. C'est aussi peut-être un roman sur les fantômes. Et c'est en plus, on en parlait là juste avant d'entrer, c'est en plus un roman d'amour.
Oui.
Ça, il faudra qu'on en reparlera de cette histoire. Bon, je voulais te demander, avant une première question toute bête, comment un tel livre naît ? Comment ça t'est venu, cette histoire ? Ou l'idée d'écrire ce bouquin ?
Alors, d'abord, je vais faire une petite aparté, parce que peut-être que vous connaissez tous Hervé Lecor. Bon, c'est Hervé Lecor, un des plus grands auteurs de polar français, qui a notamment écrit L'homme de saphir, qui est chez Rivage, qui est pour moi une des pures merveilles du roman noir français. On est presque au niveau de Céline, enfin je dis presque, de toute façon il n'y a pas de niveau, mais enfin, c'est extraordinaire.
Bon, je vous invite. On va traiter le sujet maintenant.
Non, mais voilà, je suis assez content, enfin assez fier d'être avec mon collègue. Voilà, parce que dans le roman noir français, on est bien quand même entre nous, quoi. On n'est pas, on se mesure pas, on est assez solidaire et tout. Donc comme c'est assez rare de nos temps, voilà, je tiens à souligner que... comment ça vient j'avais fait un peu le tour des anglo-saxons dans le sens où... moi, j'aime bien les grands écarts, j'aime bien les choses un peu excessives, un peu dans tous les genres. Donc plutôt l'hémisphère sud plutôt que l'hémisphère nord, plutôt le soleil que la glace. Donc déjà, ça réduit un petit peu le champ d'exploration. Bon, le hasard de la vie a fait que, comme j'ai fait le tour du monde à 20 ans, j'ai découvert la Nouvelle-Zélande, et puis donc j'ai aimé me retrouver au bout du monde, en fait. Plus à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc, quand on était au bout du monde, on était vraiment au bout du monde. Et si vous voulez communiquer avec la France, ben on envoyait une lettre. Alors, je sais que les jeunes, j'ai une lettre. C'est quoi ce truc? Le truc avec un timbre, là. Donc, ça j'aimais bien un peu cette sensation de perte en se retrouvant en même temps. Enfin. Et le voyage, bon, j'aime pas le tourisme. Moi, enfin, j'essaie de fuir le tourisme comme la peste. Donc j'essaie de trouver des pays où j'ai déjà des contacts, et donc c'était le cas de Nouvelle-Zélande, c'était le cas d'Afrique du Sud après. Donc j'ai fait un peu l'Océanie, j'ai fait un peu un tour par là-bas. Et il se trouvait qu'en fait le seul continent, bon, l'Amérique, j'avais l'impression que tout a été dit, et puis je vois pas ce que je pourrais rajouter de plus. L'Amérique du Sud, c'était un continent qui pour moi était inexploré. Géopolitiquement, c'est le seul continent qui a viré à gauche depuis la mondialisation, alors que le monde entier a viré à droite. Donc ça m'intéressait de voir comment ils s'étaient débarrassés de leur dictature, de la CIA, ce qui est souvent en fait lié. Comment ils traitaient leur communauté autochtone, puisque moi c'est ce qui m'intéresse aussi beaucoup. Ce qui m'intéresse moi c'est l'humain en fait, hein, c'est l'anthropologie, c'est surtout ça qui m'intéresse. Et il se trouve que pour les sujets qui m'obsèdent, hein, qui sont toujours les mêmes, enfin chaque auteur à peu près les mêmes, enfin tout du long de sa vie, quelque part fouille un peu dans les mêmes... dans les mêmes poubelles, quoi. Bon, ben moi, mes poubelles à moi, c'est le fascisme ordinaire. Donc, j'ai mis longtemps, enfin, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi, j'ai mis longtemps à comprendre Auschwitz, en fait. Donc, pour moi, c'était de l'inhumain. Et puis, avec le temps, en se documentant, en lisant, notamment un bouquin de Kershaw, là, qui s'appelle Hitler, tout simplement, en fait, qui est une biographie d'Hitler, il n'y a pas de doute, c'est bien de l'humain. Et c'est bien des ressorts humains, des petits ressorts humains, assez minables, en fait, quoi, et qui, bout à bout, amènent à l'horreur. Donc ça m'a pas du tout réconcilié avec l'humain, mais en tout cas j'ai comblé un vide, mais un vide que je passe mon temps à combler quand même au fur et à mesure. Il se trouve que la dictature argentine avait vraiment des liens très très proches avec les nazis, puisque au-delà de la filière nazie des agents de l'Axe en 45 qui étaient en fuite, 8000 passeports ont été délivrés aux nazis, donc ils se sont retrouvés en Amérique du Sud par l'Argentine. Après, ils sont dispatchés un peu partout. Mais ces braves gens avaient quand même un savoir-faire, donc qui était souvent la torture ou des choses comme ça. Donc, ils ont trouvé un job dans l'armée argentine. Ils ont été instructeurs, donc ils ont instruit les tortionnaires. Ils n'étaient pas les seuls, hein, l'OAS française aussi. Donc, on retrouve, enfin bon, pour moi, ce qui constitue un peu c'est la saloperie humaine, quoi. Que le fait que des gens comme les Argentins, qui étaient quand même très proches de nous, parce que des fois, je sais pas, on parle en Ouganda ou les aborigènes, bon, ça fait un peu exotique et tout, mais on a du mal à s'identifier. Bon, les Argentins, ils sont tout blancs. D'ailleurs, quand on est à Buenos Aires, on se dit, mais ils sont où les autres, quoi ? Ils sont tous blancs, en fait. Donc, c'est assez, pour moi, qu'il y ait à Paris, c'est assez bizarre, quoi. J'ai l'impression qu'il y en manque. Et c'est un pays qui est culturellement vraiment tourné vers l'Europe, qui est vraiment amoureux de la France. Et de voir les raisons pour lesquelles ils ont été enlevés, torturés, etc., c'est vraiment un terrorisme d'État. Donc c'était un système unique. Hein. Le but, c'était de terroriser la population, quand même. C'est fort, hein, quand même. Avec l'assentiment du clergé, enfin du haut clergé, en tout cas. Donc c'était, bon, bah, pour le coup, pour tout ce qui concernait le fascisme, là, j'avais un terreau. Ma deuxième obsession, moi, c'est le néolibéralisme qui s'arrange très très bien avec ce type de système. D'ailleurs, si on continue comme ça, on n'aura plus besoin de démocratie, pour une raison déjà assez simple, c'est que les riches sont plus riches et les pauvres plus pauvres, il n'y a plus de classe moyenne. Ce qui est arrivé en Argentine dans la crise 2001-2002, c'est vraiment la classe moyenne qui a été laminée, qui est évidemment la porte ouverte à tous les fascismes, encore une fois. On le voit en Grèce avec le retour des nazis, on croit rêver. Cette crise 2001-2002, donc ce néolibéralisme, enfin c'est une forme de capitalisme qui, pour moi, est anthropophage, donc qui est par essence faite pour qu'on se tue les uns les autres. Alors, de manière économique d'abord, et puis après on ne sait pas. Donc, encore, bon, là, pour le coup, donc, il y avait les deux thèmes. Et le troisième thème, qui est un thème plus personnel, peut-être, enfin, c'est le sort des autochtones. Alors, les Mapuches, mais comme beaucoup d'autres, hein, mais enfin, bon, il se trouve qu'en Argentine, c'était les Mapuches, ça coïncide avec l'arrivée de la Remington, hein, le fusil à répétition. 1880, c'est à peu près l'époque de Wounded Knee en Amérique du Nord. C'est le grand massacre, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, on décide, comme on a la technologie pour pouvoir les tuer sans qu'ils nous atteignent, grâce aux balles, donc on décide de les éliminer. Et en Argentine, c'est l'avantage de la Pampa, c'est que c'est plat. Hein, donc ils ont vraiment été tirés comme des lapins. Donc il y a vraiment des photos qu'on voit dans les musées. D'ailleurs, une exposition qui est branlée en ce moment. On voit des soldats ou même des estancieros, enfin des fermiers, en train de tirer, donc on voit un cadavre d'une femme, donc Mapuche, on le voit en train de tirer, donc on imagine qu'il y a les enfants ou le mari qui sont en train de courir devant. Donc ils les ont, comme ça, ils appellent ça la campagne du désert, comme si la Pampa avait été vide. Donc ils les ont massacrés, donc après les Mapuche se sont réfugiés dans les contreforts des Andes. Et depuis une quinzaine d'années, il y a vraiment une résurgence indigène de leur parole, de leur culture et de leur identité. Et ils essaient de montrer à tout le monde qu'ils existent encore, qu'ils font partie de ce pays, qu'ils étaient les premiers arrivés. Et en fait, ce qui me désole quand il y a une population comme ça qui disparaît, c'est une façon de voir le monde qui disparaît. Parce que nous, évidemment, avec notre ethnocentrisme blanc, caucasien, on croit toujours que, parce qu'on a la technologie, on a la puissance et on a notre façon de penser est la bonne, on a vite fait de croire qu'on a la vérité. Et on oublie en fait que eux, ils ont une autre façon de penser. Je pense juste un détail, mais qui est primordial, c'est la propriété privée. Eux, ils estiment, c'est valable pour les Mapuches, mais pour beaucoup d'autres, les Maoris aussi, c'est que nous, on vit sur la terre et qu'on appartient à la terre. Et le fait qu'on puisse mettre des barbelés autour des bouts de terrain, des bouts de terre, c'est comme si on disait l'index appartient à Manuel, le coude à Christina, ils ne peuvent pas comprendre en fait que quelque chose de presque physique puisse être partagé comme ça. Donc c'est une façon, voilà, il y avait tout ce qu'il fallait pour moi pour écrire un roman.
Mais comme on sait que tu l'as dit, tu voyages, tu es donc allé en Argentine, je voulais juste savoir, parce que la ville, les décors de la ville, les quartiers, les odeurs, les ambiances sont très présents. Dans le bouquin, comment ça t'a nourri? Je pose des questions idiotes, mais est-ce que tu fais du repérage, des photos, des prises de son? Comment ça a nourri le bouquin, toute cette...
D'abord, j'y suis allé une première fois, parce que le problème que j'avais en Argentine, c'est que je parlais espagnol super mal. Enfin, j'avais appris à l'école, donc 7 ans d'école, donc j'avais dire bonjour et au revoir à peu près.
C'est bien déjà.
C'est bien, enfin, c'est juste parce que je sais pas s'il y a une prof d'espagnol dans la salle, mais le premier cours que j'ai eu en espagnol, c'était un tableau de Velázquez, très bien, le peintre des soirs, de l'étendue et du silence, ok, mais sauf qu'il y avait une fraise, vous voyez le truc là, donc le premier mot que j'ai appris c'est la fraise. Pas facile à replacer après dans la... Donc bon, j'avais ce handicap, j'avais pas de contact parce que j'avais pas la culture, j'avais pas la langue, par contre ça m'intéressait beaucoup. Donc je suis d'abord allé en repérage. Quand j'ai repérage, c'est en voyage, parce que j'ai pas de, Je fais plus de photos depuis l'arrivée du numérique, parce que de prendre une photo comme ça, moi j'étais habitué à un cadre en fait. Quand j'ai pris la photo, c'est-à-dire qu'il y a un cadre, et le cadre est hyper important, quoi. Et là, on ne cadre pas en fait, on fait des trucs comme ça, quoi. Et quand on va dans des Iguazu, par exemple, qui est des chutes extraordinaires, moi ce que j'aime, c'est ressentir la nature, les gens, enfin, mon environnement, quoi. Et vous avez remarqué sans doute, hein, quand vous allez dans des lieux, tout le monde arrive, tout le monde se précipite et tout. On va prendre l'exemple d'Iguazu, il y a des chutes, hop, tout le monde arrive avec son appareil photo. Ah, ça y est, c'est bon, hop, on se casse. Il est où le contact avec quoi que ce soit, quoi. Donc en fait, je prends aucune note, enfin très peu de notes. Et les rares notes que je prends, en fait, ça me sert plutôt de pense-bête, en fait. Mais dans mes carnets, je gribouille plein de trucs. Mais en fait, je ne m'en sers jamais, parce qu'en fait, je me rends compte qu'une fois que je l'ai écrit, je l'ai imprimé. Chacun a sa mémoire particulière. La mienne, elle est plutôt écrite. Et par contre, après, j'écris pendant 2 ans, et après, je reviens. Mais quand je reviens, j'ai déjà une idée du bouquin. Et puis, parce que moi, je m'ennuie terriblement tout seul. Parce que déjà, quand on écrit, on est seul quand on écrit. Alors, si après, le soir, on est seul et tout. Alors, il y a des gens, mon frère, il a fait le tour du monde aussi, tout seul. Donc, il a rencontré des gens. Mais je sais pas, moi, je suis timide, sans doute. Enfin, c'est une drôle de timidité. Mais enfin, une fois, ça m'est arrivé de voyager tout seul. Et je me suis jamais autant fait chier de ma vie. Donc j'ai arrêté de voyager seul. Donc, la dernière fois, on est parti à 7. Et donc, il y avait un sculpteur, il y avait un musicien, il y avait un libraire qui faisait la bouffe. Mais il y avait plein d'artistes, entre guillemets, quoi, qui nous ont permis de communiquer, de faire des concerts, de créer des journées spéciales avec les Mapuche. Enfin, voilà. Le truc, c'est d'être en contact avec la population. Et j'avais dit à mes copains, certains qui étaient hispanisants, qui avaient vécu en Espagne, bon, déjà, j'avais pris quelques cours entre deux, hein, entre mes deux voyages. Et j'avais dit à tous mes potes, bah écoutez, voilà, on part dans 1 an, donc vous avez 1 an pour avoir tous les contacts possibles à Buenos Aires, tous les coups sont permis. Sachant que bah, mes sujets, bon, j'avais pas mes sujets, puis j'ai dit, bon voilà, moi j'aime bien la nuit, parce que, bon, en plus ça tombe bien, parce qu'à Buenos Aires, on commence à manger à minuit. Donc c'est une autre ambiance quand même, quoi. Donc j'ai dit, bon, il y a les travestis, etc. Donc en revenant, là, j'avais vraiment plein de contacts, que ce soit avec les grands-mères, parce que j'avais rencontré ici des exilés, des réfugiés argentins à Paris. Donc j'avais vraiment plein de contacts.
Bon, pour arriver direct dans le bouquin, alors ces deux personnages dont on parlait tout à l'heure, Hanna et Ruben, comment tu les as fabriqués? D'où ils sortent, ces deux-là?
Ben, ils sortent de ma pauvre tête, hein, ma pauvre tête un peu
Et
tordue,
tu
quoi.
as, je sais pas, tu as des modèles, parce que Rana, pour être franc, c'est vraiment celle qui a ma préférence.
Ah, moi aussi.
Mais c'est une femme assez, assez singulière, en particulier, vous verrez quand vous lirez le bouquin, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, c'est une femme qui, après que sa famille a été arrêtée, parce qu'elle ne les voit pas mourir, je crois,
Non.
après que sa famille a été arrêtée, elle a, je sais pas, elle a 10-12 ans, quelque chose comme ça, elle est en train de devenir une jeune fille, de se former, et sa poitrine arrête de se développer, et il y a chez elle, donc, le manque. Alors, le deuil ou le manque s'exprime chez elle de cette façon physique-là.
Permanente.
Et voilà, je ne sais pas comment on fabrique, comment ça sort un personnage comme ça. Parce que, je ne sais pas, est-ce que tu as entendu parler de personnes qui avaient pu avoir ce genre de. Comme, pas de soucis, mais de développement ou de, voilà. D'où ils viennent ces deux-là? Hanna d'abord, puis Ruben.
Bah, c'est ma préférée aussi, hein. Bon, je suis très très hétérosexuel. Et ben, le personnage féminin, c'est. J'avais envie d'écrire un roman sur une femme aussi, quoi. Je me suis rendu compte, en fait, avec le temps, que. Parce que dans mes autres livres, il y a des personnages féminins, parce que. Voilà. Mais c'était jamais. Elles étaient, entre guillemets, secondaires, même si pour moi, elles étaient très importantes. Mais il n'y avait pas de personnages vraiment principaux féminins. Et je me suis rendu compte que je préférais de loin écrire une scène avec une femme qu'avec qu'une scène de tuerie, quoi. Enfin, des gens qui se tirent dessus, moi en armes, enfin, moi je connais à peu près la différence entre un pistolet et un revolver, mais ça s'arrête là, quoi. Je suis pas du tout spécialiste de genre de truc, et c'est pas vraiment ça qui m'intéresse. Après, bah, comme je suis plutôt pour les opprimés, parce que voilà, ma tendresse naturelle va pour eux ou elles. Bon, déjà les femmes sont déjà, par rapport aux hommes, elles sont déjà plus opprimées, parce qu'elles ont tendance à croire qu'on est les grosses vedettes. L'attribut féminin par excellence, effectivement, c'est la poitrine. Enfin, il y a des tests un peu débiles qui sont faits là-dessus, quoi. Bon, bah, plus, généralement, enfin, voilà. Enfin, une femme sans poitrine, c'est comme si c'était pas une moitié de femme, mais parce que c'est un peu dur. Mais justement, qu'est-ce que peut ressentir une femme comme ça? Il se trouve que j'ai certaines copines, c'est des sujets qui sont souvent assez délicats, mais qui n'ont pas du tout de poitrine, quoi. Et quand on les voit, ben, forcément, c'est pas des gens. Enfin voilà, on sent qu'il y a une fêlure, il y a une douleur quelque part qui est presque tabou en fait. Donc voilà, donc ma tendance ayant plus vers ça, je lui ai la pauvre, je lui ai mis ça, mais ça allait bien avec la pampa, ça allait bien avec les conditions des Mapuches en fait, qui sont expropriées souvent très violemment de chez eux. Donc j'imaginais une gamine de 10 ans comme ça qui vit dans sa petite campagne avec ses parents. Et qu'à un moment, il y a des gens casqués comme ça qui déboulent, qui sont hyper violents, qui tapent tout le monde, qui déchirent les fringues de sa mère la nuit. Enfin, c'est des chocs affectifs qui peuvent créer ce genre de choses. Et bon, en plus, bon, je lui ai remis une pauvre couche à elle en plus, puisque elle est sculptrice dans mon histoire. Et elle arrive à Buenos Aires pendant la crise. Donc les gens étaient vraiment à la rue. Donc une Mapuche en plus. Donc. Et ça, c'est ce que j'avais vu à l'époque. Ça arrive aussi malheureusement en France. Mais bon, beaucoup d'étudiantes argentines ont été obligées de se prostituer en fait, pour pouvoir continuer leurs études. C'est juste une idée qui me révolte, moi, tout simplement, quoi. Donc je lui ai mis ça aussi, elle, sur le dos. Et du coup, plus les personnages sont chargés, quoi, plus je les défends. Et pour moi, elle est quand même hyper sexy, quoi.
Oui. Elle a souvent des petits shorts assez saillants.
Elle n'a pas beaucoup, pas grand-chose à se mettre sur le dos. Donc j'ai mis une tenue clash, hein, un peu guérilla urbaine, là, et avec son treillis et tout, là, avec ses docks. Donc
elle
moderne.
Autrement,
elle est en short.
Ouais, j'ai bien aimé.
Petit short noir, là. Parce qu'on sent quand même qu'elle a un beau cul, quoi. Pardon. Hein, voilà. Mais pour moi, c'était important d'avoir une silhouette, en fait. Et au fur et à mesure, on tombe amoureux de nos personnages, en fait. Bon, il faut 3-4 ans pour écrire ce genre de bouquin. Donc, au début, ils n'ont pas de prénom. Donc, on trouve un prénom. Déjà, ça donne de la chair. Et puis après, on se dit. Et moi, j'aime pas trop. Déjà, je suis nul en description, donc je suis obligé de faire des images, en fait. Alors, donc, c'est un peu. Donc, d'écrire, elle a un nez comme ça, des yeux comme ça, c'est un peu. Enfin, moi, j'ai un peu de mal. Enfin, je suis pas très bon. Et puis, moi, j'aime bien, en fait, que le lecteur. Il se fasse, je lui donne des petites pistes comme ça, mais qu'il se fasse lui-même en fait sa petite vision, sa petite musique à lui à l'intérieur. Donc voilà, enfin, je suis tombé amoureux d'elle au fur et à mesure et après complètement, toujours d'ailleurs. Enfin.
Et Ruben, c'est l'autre donc, c'est l'homme Ruben Calderón. Une entrée pour ma question, c'est que vu ce qu'il a, je me suis posé la question tout au long du bouquin, surtout. Après avoir être tombé à un moment donné du livre sur un extrait de son cahier triste, que j'ai trouvé que c'était dans ce livre une espèce de texte radioactif qui du coup, l'impression qu'il me donne, c'est qu'il irradie le bouquin aussi bien en amont qu'en aval d'ailleurs. C'est-à-dire que sans ce truc-là, ça donne du coup à l'ensemble du récit une très très grande force. Donc à partir du moment où j'ai lu ce cahier triste, d'ailleurs je trouve déjà le terme cahier triste, je trouvais ça assez beau d'intituler ça comme ça, on se demande comment Ruben a pu survivre à tout ça. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est, c'est quand même qu'elle est un gaillard, un sacré gaillard, quelqu'un qui se bat bien, il est ultra viril quand même, il est beau gosse. Souvent tu décris ses grands yeux bruns, etc. Bon, c'est assez.
C'est un fils de poète.
Hein. Ouais. Et il. Comment il fait pour tenir encore debout? Parce que quand on lit, vous verrez. Et quand on lit, je veux pas non plus tout déflorer, mais quand on lit ce cahier triste, on est absolument effondré, épouvanté. Par ce récit que j'ai trouvé extrêmement puissant. Et comment ce type a pu, peut encore tenir debout, peut encore combattre. Alors certes, sa mère est encore là, elle fait partie des abuelas de la place de Mai, des grands-mères hein, donc, qui ont succédé aux mères, aux fameuses folles de la place de Mai. Mais quand même, comment il fait?
Moi, j'ai été bouleversé par les récits en fait, hein, des gens qui ont été torturés, enfin, les rares qu'on s'en sortit. Malheureusement, dans le cas écrit, j'ai rien inventé. Donc, c'est un peu rude. Mais il y a des gens qui s'en sont sortis, en fait. Et comment comment survivre à l'horreur. Donc, pour le coup, on revient à Auschwitz, hein, parce que les conditions de détention étaient vraiment semblables à Auschwitz, donc, d'une autre manière, mais au niveau de l'horreur, quoi, c'est systématique. Enfin, il y avait une machinerie, en fait, qui était vraiment similaire. Et voilà, comment on fait? Est-ce que, comme Primo Levi, on écrit? Est-ce qu'on devient anthropologue, en fait? Est-ce qu'on observe le... Est-ce qu'on met une distance, etc.? Il se trouve qu'il y a une histoire dans l'histoire, en fait, c'est qu'il ne peut pas... On l'a laissé sortir pour qu'il parle, en fait, pour qu'il raconte l'horreur et qu'on rende sa mère folle, encore plus folle, en fait, mais vraiment folle, quoi.
Il se tait.
Donc il se tait. Il se tait pour pas... Donc il prend tout sur lui. Donc, bah, il y a un moment où il faut se mettre à la place, en fait, du truc. Enfin, bon, tu le sais, hein, l'empathie, hein, c'est notre seule arme, enfin, en tant qu'auteur, quoi. Enfin, c'est de se mettre avec les autres. Et bah, du coup, en fait, dans les deux premières années de mon livre, quand j'ai donné les premières versions à mon éditeur, il a été épouvanté, en fait. Je l'étais aussi, d'ailleurs. J'ai même pas réussi à le finir. Quand j'ai sorti la première version au papier, je suis arrêté à la moitié, tellement je trouvais ça horrible. Et la deuxième moitié était quand même deux fois plus horrible, hein, enfin, ou dix fois plus horrible. Et lui, le pauvre, il a tout lu, en fait. Et il était tout blanc, il me dit, je sais pas, attends, mais il a nuit et tout, il me dit, non, c'est pas possible, quoi. En fait, c'était de la torture, en fait. C'était de la torture pour l'auteur, pour le lecteur. Et je pense que si j'avais sorti cette version-là, le lecteur, il aurait pris le bouquin, il aurait jeté le plus loin possible en disant, c'est qui ce connard qui m'a torturé pendant 10 heures, en fait. Et j'avais oublié que l'Argentine, en fait, c'était pas que un ciel noir avec... avec des disparus, des gens qu'on enlève pour des raisons épouvantables et qu'on torture, etc. L'Argentine, c'est un pays qui se bat aussi, etc. Et le personnage de Ruben, au départ, il n'était que noir. Et tout finissait très, très... Enfin, bon, c'était... Le bouquin devait sortir 6 mois après, hein, enfin, mais j'avais dit, non, je pense que ça va pas. Il me dit, si, il avait confiance en moi, l'éditeur et tout. Puis quand il a lu, il m'a dit, non, en fait, t'oublies toutes les dates, l'éditeur, hein, quand il y a un bouquin qui marche, ils vous disent... Ah ouais, bon, ouais, le prochain. Je dis, le prochain, quand il sera bien, quoi. Il dit, ouais, non, mais ça va aller. Je dis, non, je pense que ça va pas du tout. Et quand il a lu ça, il m'a dit, t'oublies toutes les dates, t'oublies tout, tu recasses tout. Tout est là, mais tu recasses tout. Et surtout, tu mets de la vie, quoi, pas que de la mort. Et donc, c'est pour ça qu'au début, Ruben avait les yeux juste anthracite, quoi, enfin, la couleur de l'orage avant qu'il tombe. Et donc, du coup, le hasard, mais il n'y a pas de hasard dans la vie, c'est ça qui est chouette. Moi, j'étais fan de Bowie quand j'étais plus jeune. Quand même, le mec, quand même la classe. Et bon, il avait fait des albums un peu pourris après, là. Donc, j'avais moins écouté. Et j'avais plus revu, surtout, enfin, n'ayant pas de télé, etc. Et par hasard, au moment où j'étais vraiment au fond du trou, hop, je chope une vidéo de Bowie, un concert 2004. Et puis, j'hésite en DVD et tout. Je veux un concert en DVD, bof. Et puis, j'avais peur qu'il fasse un peu son petit marquis. Parce que des fois, il me dit, oh, non, comme ça, tout. Bon. Et puis j'achète quand même. Et là, je vois Bowie, 50 ans, la grosse classe, quoi. Des morceaux, tous ces vieux morceaux qu'il refait avec des musiques modernes, mais ils n'ont jamais été aussi bien. Enfin, j'étais énervé, je dis, ah, mais voilà, en fait. Donc à Bowie, je lui ai mis, à Ruben, je lui ai mis les fringues de Bowie, je lui ai mis des petites fleurs de myosotis bleues dans les yeux pour lui donner. Un relief, un truc, quelque chose de vivant quand même, parce que ce personnage, autrement, s'il était que noir, même il se serait flingué à l'adolescence, enfin, ou un peu après, s'il est encore debout, c'est qu'il y a une force de vie et qui est celle des grands-mères, en fait. Et les grands-mères de la place de Mai, bon, elles sont extraordinaires, quoi. Et en les rencontrant, je pensais pas, parce que c'est quand même des femmes qu'ont subi le pire, hein. On a enlevé leurs enfants ou leur mari, ou parfois les deux. Et elles savent ce qu'on leur a fait. Elles savent qu'ils ont été torturés systématiquement. Les filles, certainement violées, parce que c'était le gros job des mecs, ça les amusait. Ils sont restés souvent très longtemps torturés, etc. Ils ont été assassinés. En plus, ils n'ont pas le corps. Et on sait que quand on n'a pas le corps d'un proche, on ne peut pas faire le deuil. Donc, c'est des mères qui ont subi vraiment l'épouvantable. Non seulement elles sont toujours vivantes, elles se battent, mais comme des teignes. Depuis 35 ans, et quand je les ai rencontrées, en plus, elles ont de l'humour. Et je ne pensais pas, et je trouve que tout s'explique, en fait. Hein. Si elles ont de l'humour, c'est qu'elles sont toujours vivantes, et elles sont vraiment au taquet. Et puis elles le disent toujours, hein, il n'y a pas de pardon pour les bourreaux, donc tant qu'on sera vivante, et que nos filles seront vivantes, et nos petites filles seront vivantes, tant qu'il y aura les bourreaux, on les jugera jusqu'à la fin de nos jours, donc c'est quand même des sacrés... sacrée batailleuse. Mais elle dit tout le temps, ils ont volé nos fils et nos filles et nos maris, mais ils n'ont pas volé notre amour. Donc c'est leur force, en fait. Donc voilà, Ruben, donc je lui ai mis cet amour, cette rage. En
fait. Et puis il y a sans doute un autre, un autre moteur qui fait agir ces deux-là, c'est l'amour. Puisque il y a une histoire d'amour qui naît d'ailleurs de façon presque soudaine. Moi, je ne m'y attendais pas au départ. Je pensais, non, il va les faire cheminer parallèlement. Il y aura peut-être quelques rapprochements furtifs. Mais, or, il y a une vraie passion qui se déclenche. C'était aussi une façon de remettre, par rapport à ce que tu viens de dire, de remettre de la vie, mais aussi de prendre de la distance à l'égard de la noirceur dans laquelle tu étais plongé, là.
Complètement, oui. Bon, moi, je commence toujours mes histoires, enfin mes romans, par une histoire d'amour. S'il n'y a pas d'histoire d'amour, je m'ennuierais, en fait. Donc, même si ça peut paraître un peu secondaire, enfin, pour moi, ça ne l'est pas du tout. Et à un moment, après Zulu, je me dis, mais écoute, puisque c'est les scènes d'amour que tu préfères, enfin, en tout cas, comment des êtres se mettent ensemble, plutôt de faire des petits bouts, fais un roman d'amour, parce que de toute façon, c'est ce que j'aime faire. Donc, pour moi, au départ, c'est un roman d'amour. Mais ce qui les réunit, en fait, c'était presque l'idée de départ, même si je n'avais pas vraiment tout bien pensé. Moi, j'ai plutôt tendance à faire les choses, puis après, on voit un peu ce qu'il en reste. C'est deux fantômes, en fait. Et donc, tu l'as dit tout à l'heure, lui, c'est les fantômes des disparus, et elle, c'est les fantômes des Mapuches. Et je pense que c'est là qu'ils se retrouvent, et que du coup, ça devient passionnel, parce qu'ils sont seuls, et ils n'existent pas, quelque part. Et ils se voient dans le regard de l'autre. Alors évidemment, histoire d'amour, si dès la première rencontre, ils se trouvent une pelle, ils couchent ensemble, ils se marient, ils achètent un chien, voilà. Bon, niveau romanesque, c'est pas terrible, quoi. Donc là, pour le coup, c'est assez frustrant parce que elle met du temps à se mettre en place. Donc moi, je courais avec eux, quoi. Mais quand ça arrive, ça fait du bien. Enfin moi, ça faisait du bien pour moi, en tout cas.
Et les méchants, je les passe tous en revue, enfin pas tous les méchants, mais tous les grands piliers du bouquin, les méchants sont vraiment des... Bon, j'imagine qu'ils existent largement, que t'as pas dû aller chercher bien loin, certes, mais ils ont eux aussi une combativité complètement folle, quoi. Ils sont de fanatiques... Dément, méthodique. Là aussi, je pose des questions naïves, mais je sais pas. De temps en temps, il y en a un qui se fait coincer, qui passe en jugement. On a eu le fameux Ortiz. Bon, et puis sans doute quelques autres. Mais la plupart sont passés à travers maille. Mais t'es allé les chercher où? Dans des bouquins, des renseignements, des contacts
Alors, c'est les seuls personnages...
Ils sont quand même très très crédibles, tout ça. Mmh. C'est pas des purs méchants. C'est pas des motifs de romans noirs où, tiens, il me faut un méchant, donc voilà, je vais inventer un truc. Ils sortent vraiment de la... Eux aussi, c'est des sortes de... c'est pas des fantômes, je ferai presque la nuance avec les... C'est quasiment des spectres, quoi. Au sens où un fantôme peut être presque rassurant et affectueux. Et là, alors qu'un spectre, enfin, à mon humble avis, est une figure menaçante. Et ils ont l'air aussi de sortir, de se détacher peu à peu, comme ça, de l'intrigue. Ce ne sont d'abord que des figures assez floues, et puis peu à peu, ils prennent de plus en plus de chair, de densité.
Bah, lors des premiers procès, parce qu'en fait, Kirchner, en 2003, a décrété que c'était fini l'amnistie pour les bourreaux. Donc il dit, bah, maintenant, on va les juger. Après, il faut les attraper, il faut les prouver qu'ils ont été là, etc. Et donc, il y a des témoins, dans ce cas, qui sont à charge. Et lors des premiers procès, les témoins étaient enlevés, en fait. Donc, vraiment, comme en 14, entre guillemets. Donc, ils sont bien là. Ils sont bien là. Quand j'ai visité l'ESMA, qui est maintenant un centre de mémoire, en fait, c'est tout est vide. Il n'y a rien, en fait. Et tu as juste un ancien détenu qui te raconte ce qui se passait. Enfin, donc, c'est bien lourd, quoi. Et donc, c'était 3 heures de visite, comme ça. Et quand on est sorti, on était un peu abasourdis. On prend un taxi pour partir et le taxi nous dit ah, vous sortez de l'ESMA. J'ai dit bah, on a visité et tout. Ah ouais, mais c'est des conneries, hein, faut pas raconter ce qu'on dit là, tout là. Le mec, il est 65 balais et tout. Je dis bon, toi, fils de pute, arrête-nous tout de suite là. Parce que bon, c'est un sympathisant, ou si ça se trouve, c'était même un ancien tortionnaire, enfin un ancien soldat, quoi. Donc il y a vraiment, dans la société argentine, il y a toujours, ils sont toujours là, ils ne regrettent pas. Hein. C'est comme les nazis, le mec, il ne regrette pas. Hein. Bon. Donc en fait, donc là, on en revient à ce que je disais par rapport à Hitler, des gens comme ça, en fait, c'est vraiment des ressorts humains, et l'humain est capable du meilleur comme du pire. Mais bah, du coup, c'est. Alors, ce n'est pas le mal, comme dans, il y a certains auteurs et tout, ils font un bouquin sur le mal. Alors, c'est un peu le mal absolu. Donc, ils découpent des filles, ils en font des abat-jour ou je ne sais pas quoi. Bon, moi, ça m'intéresse moins parce que c'est un peu, c'est une violence sans motif, en fait. Donc là, c'était vraiment. Par exemple, les mecs, les tortionnaires, mais tout ce que je raconte, c'est des trucs de récit, en fait. Hein, bah, par exemple, ils. Bon. Quand une femme était enlevée, elle arrivait, bon, ils aimaient bien la violer parce qu'on leur lâchait la bride, mais surtout, plus elle était belle, plus elle était violée. Donc, ils mettaient des numéros, donc j'en parle dans le bouquin. Là. Donc, il y a une fille, c'est 333. 333 fois violée, quoi. Bon, c'est des trucs. Voilà, c'est lourd, c'est poisseux, ça pue l'humain, ça pue le mec avec la chaîne et les poils, là. Enfin, moi, c'est je suis pas très macho, quoi, mais quand on voit, enfin, on voit bien le ressort, hein, on voit bien le ressort bien pourri, quoi. Donc, moi, j'essaie de fuir le manichéisme, en fait, dans les romans, parce que moi, ça m'intéresse pas de dire ah ouais, regarde, à gauche, ils sont tous sympas, à droite, ils sont tous méchants. Bah non, l'humain, il est plus compliqué que ça, quoi. Mais là, c'était un peu compliqué, en fait, parce que vraiment, les salauds, c'était vraiment les salauds, quoi. Et puis, en face, il y a les grands-mères, en gros, quoi. Donc, pour le coup, c'était un peu les bons et les méchants, donc j'ai eu un peu de mal à les humaniser. Alors, j'espère que les méchants, ils ont. Bon, de toute façon, je pense qu'on ne peut vraiment pas les saquer hein, dans le bouquin non plus. Quoi. Mais c'est bah, voilà, comment on vit comme ça. Donc, c'est quand même. Par rapport à tous les gens que j'ai pu rencontrer, c'est les seuls que je n'ai pas rencontrés. Enfin, à part le chauffeur de taxi, mais bon, au bout d'une minute, déjà, quelque part, c'était. C'est ma propre violence, en fait, qui font monter. Quoi. Et du coup, je n'ai pas cherché à les interroger. Par contre, j'ai un ami qui fait des documentaires. Qui a interrogé en fait un sans tortionnaire qui effectivement qui me dit que c'était plutôt un pauvre type en fait quoi, qui était là oui bon on faisait ça ouais enfin donc ne regrettez pas mais c'était une autre époque en fait quoi.
Oui c'était la guerre aussi en quelque
voilà,
sorte. On avait entendu ça de la part des tortionnaires d'Algérie. Ouais. Mais ce qui, je ne veux pas déflorer le bouquin, mais tu leur réserves. Là où tu les humanises le plus, probablement, c'est en les faisant souffrir.
Oui, alors je suis pas pour la vengeance, hein, parce que ça, c'est une passion triste et tout. Mais il y a un moment, en fait, c'est parce que les grands-mères le disent vraiment, hein, il y a pas de pardon, mais par contre, il y a la justice. Entre les deux, donc c'est ni talion, ni pardon, ni talion, mais entre les deux, il y a la place, et moi je suis complètement d'accord avec ça, en fait. Je trouve que c'est. Voilà, pour moi ça me correspond comme façon de voir les choses. Par contre, il y a des moments où, quand on pousse le bouchon un peu trop fort, enfin un peu trop loin, on peut plus rien faire, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens, enfin, si les nazis déboulent, au bout d'un moment, c'est pas la peine. C'est pas la peine d'essayer de leur dire, de faire appel à leur humanité, ils veulent pas en entendre parler. Donc, alors je suis pas. Si, enfin non, je suis pas pour la peine de mort non plus, mais il y a un moment où, dans les circonstances, la justice, de toute façon, la justice, elle est pas individuelle. La justice, elle est collective, et c'est ça qu'ont bien compris les. C'est pour ça qu'il y a un état de droit, c'est pour ça qu'il y a le discours des grands-mères se tient tout à fait quoi. Après, si on nous demande, mais c'est valable pour nous tous, hein, on a notre enfant, hop, il est assassiné par un salopard. Il est évident que si on nous laisse le salopard dans la pièce, on va aucune avoir envie, c'est de le massacrer. Mais c'est pour ça qu'il y a une justice, c'est que la justice, elle soit pas individuelle. Bon, il se trouve que dans le bouquin, il y a un moment où bah, il y a plus qu'une personne qui peut donner la justice. Il se trouve qu'elle est Mapuche, donc elle va retrouver ses instincts un peu sauvages.
Oui, c'est une espèce de scène de chasse assez. On ne veut rien vous dire, mais une scène de chasse en forêt, je peux la décrire comme ça, qui est assez jubilatoire, il faut reconnaître. Et alors, ce qui est curieux, vous verrez, c'est qu'à ce moment-là, ces individus, vous verrez qui et comment ils sont arrivés là, ces individus qui jusque-là forment une sorte de commando de chasse, si je puis dire, perdent tout sens de la solidarité. Après, c'est chacun sa gueule. L'un qui reste assez longtemps dans la boue, saignant comme un porc. Enfin bref, vous verrez, c'est assez... Hein. Mais là, en même temps, ils ne peuvent pas s'empêcher, même au moment où, au sens le plus physiologique du terme, ils s'humanisent, ne serait-ce que par le sang versé, leur sang versé, même à ce moment-là, ils sont incapables, même entre eux, de la moindre solidarité. C'est assez impressionnant. Pour ça que c'est à ce moment-là, à la limite, qu'ils prennent le plus de densité, ces personnages-là. Jusque-là, bon, ce sont des prédateurs. Et là, tout d'un coup, une fois qu'ils deviennent proie, même à ce moment-là, et ça fonctionne, c'est pas un motif artificiel, même à ce moment-là, ils sont complètement... ils sont salauds jusqu'au bout, enfin, ils sont inhumains, enfin pas inhumains puisque ce sont des êtres humains, mais tout ce qui fait le lien entre les êtres humains, le lien social, affectif, etc., même ça, ils n'arrivent, même dans la pire situation, ils n'arrivent pas à le faire naître.
Parce que je pense que si on est capable de commettre des atrocités, c'est qu'il nous manque quand même quelques alors, c'est pas des cases, hein, il nous manque quelques qualités humaines de base, comme par exemple la solidarité ou l'empathie. En tout cas, il n'y a aucune empathie. On ne peut pas éprouver d'empathie quand on tue quelqu'un, c'est impossible. Donc, et puis, c'est qu'il se retrouve à un moment, en fait, dans la situation des disparus. En fait. Donc, pour moi, c'était un retour, même si dans une autre, c'est une autre forme de noir et une autre forme de souffrance. Mais il y a un moment, il se retrouve. Alors, c'est peut-être un peu judéo-chrétien, quoi. C'est par où tu as péché, par un code mapuche, donc c'est pas tellement judéo-chrétien, en fait.
Bon, on va peut-être...
Oui, parce que moi, je peux parler, blablabla, pas 3 heures encore,
on n'enlève pas la prise, on est là demain matin. On va conclure, on va te remercier.
Ben, merci à vous.
De tout ça, et puis merci de votre présence. Merci à vous.